tous, Claire Moral-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au moins 129 morts dans une tentative d'évasion de la prison de Makala, Kinshasa en RDC. Le Parlement sénégalais rejette une révision de la Constitution. Nigeria, au moins 81 morts dans une attaque présumée de Boko Haram. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reste inflexible, faisant savoir qu'il ne céderait pas aux pressions pour conclure un accord sur la libération des otages à Gaza. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a rejeté lundi soir un projet de révision de la Constitution porté par les nouvelles autorités. Le projet est considéré comme un signe avant-coureur d'une dissolution du Parlement hostile au pouvoir. Jean-Roger Bion.
Les députés ont dit non par 83 voix contre 80 au projet de suppression de deux institutions consultatives, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars, et son premier ministre Ousmane Sonko sont dépourvus de majorité à l'Assemblée nationale élue en 2022 et où continue à dominer le camp de l'ancien président Macky Sall. Or, le nouvel exécutif a besoin d'une majorité parlementaire pour mettre en œuvre les politiques de rupture promises. Le président sénégalais peut dissoudre l'Assemblée, mais pas avant deux années de législature. Il pourra le faire à partir du 12 septembre, a rapporté la presse en faisant état, le cas échéant, d'un avis du Conseil constitutionnel. La présentation par le gouvernement d'un projet de révision de la Constitution, voué à l'échec avant son examen, a largement été considéré comme le prélude à une dissolution de l'Assemblée. La coalition de l'ancien président a annoncé le dépôt prochain d'une motion de censure contre le gouvernement.
Au Mali, Boubacar Traoré, un proche du premier ministre civil, a été libéré de la prison après avoir purgé une condamnation pour avoir signé un document ouvertement critique de la junte au pouvoir. C'est ce qu'a rapporté sa famille aujourd'hui. Boubacar Traoré avait été placé en détention le 28 mai après la publication d'un communiqué s'opposant fermement à un éventuel maintien des militaires au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Au Nigeria, au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une attaque dans le nord-est. Selon Abdul Karim Dungus, porte-parole de la police de l'État Yobe, environ 150 terroristes présumés de Boko Haram sur plus de 50 motos armées, deux fusils, deux grenades ont attaqué le village de Mafa vers 16h dimanche. Au moins 81 personnes ont été tuées, selon Boulama Jalaloudin, porte-parole du président du gouvernement local de Tarmoua, où se trouve Mafa. En République démocratique du Congo, au moins 129 personnes ont été tuées dans une tentative d'évasion dans la nuit de dimanche à lundi à Kinshasa au sein de la plus grande prison du pays. C'est le bilan donné ce mardi par les autorités. Yakuba Ouedraogo.
Parmi les 129 morts, 24 personnes ont été tuées par balle après sommation, selon le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a fait état de nombreuses personnes mortes par bousculade et étouffement. Il a aussi évoqué quelques cas de femmes qui ont été violées et 59 blessées prises en charge par le gouvernement. Une partie des bâtiments de la prison, surtout ceux hébergeant les services administratifs, a été incendiée, selon le gouvernement. Les autorités n'ont pas fait mention de prisonniers qui auraient réussi à s'échapper. Selon plusieurs riverains, vers 2h du matin lundi, des coups de feu ont retenti à la prison de Makala et les tirs ont continué pendant de longues heures dans cette zone populaire et résidentielle de Kinshasa. Hier, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a affirmé que des enquêtes sont en cours pour identifier et sanctionner les commanditaires de ces actes. La prison de Makala, la plus grande de la RDC, a une capacité de 1500 places. Mais elle héberge entre 14 000 et 15 000 prisonniers, selon les statistiques officielles. Ce centre pénitentiaire avait déjà subi d'importants dégâts lors d'une attaque en 2017 par des hommes armés qui avaient permis à plus de 4 000 détenus de s'évader.
Toujours en RDC, le tribunal militaire qui juge une cinquantaine de personnes poursuivies pour la tentative de coup d'État de mai dernier a promis de rendre son verdict le 13 septembre, a-t-on appris auprès de la Défense. Les 51 prévenus, dont 3 ressortissants américains, ont tous plaidé non coupables.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des problèmes salariaux et des pénuries d'équipements et d'effectifs sapent le moral des policiers kényans déployés en Haïti et entravent leur capacité à affronter des gangs lourdement armés, selon des médias kényans. Le gouvernement de transition d'Haïti et ses alliés internationaux comptent sur la mission menée par le Kenya pour rétablir une sécurité suffisante pour organiser des élections d'ici février 2026. Alexandrine Holonian.
Des médias kényans rapportent que les agents n'avaient pas reçu leur prime. 4 officiers sous couvert d'anonymat ont confié à l'agence Reuters qu'on leur avait dit que du matériel supplémentaire était en route, mais qu'ils ne l'avaient pas encore vu et qu'ils devaient se battre en attendant avec des ressources inadéquates. Interrogée sur les préoccupations exprimées par les officiers, la porte-parole de la police kényane, Resila Onyango, a répondu que le MSS a reçu des véhicules et des équipements supplémentaires de la part du gouvernement américain, améliorant ainsi leurs opérations conjointes avec leurs homologues haïtiens. Le département d'État américain a déclaré que les États-Unis avaient intensifié leur livraison de véhicules blindés, de postes de radio et de systèmes informatiques. Les 200 premiers officiers kényans sont arrivés à Port-au-Prince fin juin et ont été rejoints par un contingent de taille similaire 3 semaines plus tard. La force est censée passer à environ 2500 personnes provenant d'au moins 10 pays. Mais les progrès sont lents, en partie à cause des problèmes de financement.
Au moins 51 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées ce mardi dans une frappe de missiles russes sur la ville de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, selon un nouveau bilan officiel. Plus de détails avec Mohamedou Oumfa.
Au moins 51 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées, a annoncé le porte-parole du ministère de la Défense, Dimitro Lazoutkin. Le gouverneur régional, Philippe Pronin, a ajouté que plusieurs personnes pourraient se trouver sous les décombres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que 2 missiles balistiques avaient touché un établissement d'enseignement et un hôpital voisin à Poltava. L'un des établissements de l'Institut des communications a été partiellement détruit. Des personnes se sont retrouvées sous les décombres, a-t-il souligné dans un message vidéo parlant de cet établissement fondé dans les années 1960 et qui forme des spécialistes de télécommunications militaires. Le président ukrainien a dit avoir ordonné une enquête complète et rapide sur les circonstances ayant permis cette attaque russe. Il a aussi promis de tenir la Russie pour responsable et a une nouvelle fois appelé les alliés occidentaux de Kiev à livrer d'urgence davantage de systèmes de défense anti-aérienne et à autoriser l'Ukraine à pouvoir atteindre en profondeur le territoire russe avec les missiles de longue portée qui lui ont été fournis.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti qu'il ne céderait pas aux pressions pour conclure un accord sur la libération des otages à Gaza, affirmant vouloir maintenir la pression militaire sur le Hamas palestinien au 11e mois de la guerre. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit aujourd'hui, pour le 7e jour consécutif, son opération dans le nord de la Cisjordanie occupée, où au moins 27 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé palestinien. Les États-Unis ont appelé aujourd'hui à faire preuve d'urgence et de flexibilité pour finaliser un accord de trêve à Gaza, donc après la mort des 6 otages aux mains du Hamas, s'engageant à poursuivre leurs efforts dans les jours à venir. L'émissaire américain pour le climat, John Podesta, se rend en Chine cette semaine pour s'entretenir avec son homologue Liu Zemin au moment où Pékin et Washington, les 2 premiers pollueurs de la planète, tentent de maintenir des échanges malgré leurs différends. Cette visite intervient en amont de la COP29 prévue en novembre en Azerbaïdjan et après la venue à Pékin la semaine dernière de Jake Sullivan, un proche conseiller du président américain Joe Biden. Paris appelle à rétablir une relation migratoire classique avec notre ami et voisin britannique, quelques heures après le naufrage d'une embarcation qui a fait au moins 12 morts, plus de 60 dans la Manche, plus de 60 personnes étaient entassées à bord du bateau qui a fait naufrage donc ce matin. C'est les détails donnés par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le ministre a ajouté que 51 personnes ont pu être sauvées. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
La raffinerie géante du magna nigérien Aliko Dangote, d'une capacité de 650 000 barils par jour, a commencé à produire de l'essence. Aliko Dangote a précisé qu'un comité réuni par le président Bola Ahmed Tinubu était en train de fixer les prix de l'essence produite dans sa raffinerie. La Namibie a entamé l'abattage de plus de 700 animaux sauvages, hippopotames, éléphants, bœufs, zèbres, notamment pour nourrir les populations affamées par la pire sécheresse depuis des décennies, a annoncé mardi le ministère de l'Environnement. Des chasseurs professionnels ont été chargés d'abattre 30 hippopotames, 83 éléphants, 60 bœufs, 100 agneaux bleus, 300 zèbres, 100 élandes et 50 impalas. L'ONU a annoncé avoir tenu des pourparlers avec les deux exécutifs rivaux en Libye, dont les différends ont débouché sur une crise de la gouvernance de la Banque centrale et des craintes autour du secteur pétrolier. Le gouverneur de la banque a indiqué au Financial Times qu'il avait fui le pays en raison de menaces de groupes armés.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Des nouvelles des Jeux paralympiques pour commencer.
Oui, avec cette entrée en lice ratée aux 100 mètres pour la double médaille d'or des derniers Jeux de la francophonie, l'athlète burkinabé Rainatou Monet a fini la course au 7e rang de sa série. Temps mis 13 secondes 86, insuffisant car seuls les 4 premières de chaque série se qualifient pour les demi-finales. En football, après avoir fait un match nul 0 but partout devant l'Argentine, le Maroc, seul représentant africain dans la discipline de ceci foot, a battu hier le Japon sur le fil 1-0, mais s'est incliné aujourd'hui face à la Colombie 1-0 aussi. Médaille d'or au 1500 mètres T11 dames avec la victoire de l'Éthiopienne Yayesh Gate Tesfaw. La médaille de bronze est revenue à la Sud-Africaine Lausanne Kodzi. Au 100 mètres T34 hommes, le Tunisien Walid Kitla a enlevé l'argent.
Parlons à présent du mondial féminin des moins de 20 ans qui se joue en Colombie.
L'Afrique compte 4 représentants dans cette compétition dont le dénouement est attendu le 22 septembre. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, du Nigeria et du Maroc. À suivre ce soir, Colombie-Cameroun. Le Cameroun qui avait arraché un match nul d'entrée samedi, 2 buts partout face au Mexique. Le Nigeria refait surface demain mercredi après sa victoire d'entrée 1-0 devant la Corée du Sud. Le Maroc a perdu 0-2 face au Paraguay pour son premier match et joue face aux États-Unis toujours demain mercredi. Pour notre consultant sportif à Casablanca, Amin Birouk, la mission s'annonce difficile pour les Lions de l'Atlas.
Cette défaite hypothèque les chances de l'équipe du Maroc dans la mesure où elle se trouve dans un groupe très compliqué et c'était une finalissime contre le Paraguay. Les prochains adversaires du Maroc, et non des moindres, sont les États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi et surtout l'Espagne, champion du monde U19. Donc ce sera une mission presque impossible pour les joueuses drivées pendant cette compétition par Jorge Linda qui aura le privilège de retrouver son pays d'origine lors d'une confrontation fratricide. Mais ce qui est certain, c'est que ces joueurs sont en apprentissage et il ne faudra pas les blâmer si elles retournent fanées au pays parce que le Maroc est en train d'énormément œuvrer pour le développement du football féminin et ça devrait porter ses fruits très prochains.
Amin Birouk, consultant sportif.
Victor, aussi N et Naples ouvrent les négociations pour un prêt à Galatasaray.
L'attaquant international nigérian semble enfin trouver un moyen de quitter Naples en entamant des négociations pour un prêt avec le club turc de Galatasaray. Victor Osimhen, qui avait été annoncé au Paris Saint-Germain, à Chelsea et au club saoudien Al Ahly ces dernières semaines,
a vu la fenêtre de transfert des plus grands championnats européens se refermer sans qu'aucun accord n'ait été trouvé pour lui. La fenêtre de transfert du championnat turc ne se refermera pas avant le 13 septembre et Galatasaray a besoin d'un attaquant central après la blessure de Mauro Icardi. L'attaquant nigérien qui a atterri à Istanbul ce matin pour des discussions a marqué 26 buts lorsque Naples a remporté la Serie A en 2023. Osimhen ne s'est pas entraîné avec Naples qui l'avait déjà remplacé en recrutant le Belge de Chelsea, Romelu Lukaku.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous, place au dossier du jour. Nous vous en parlions en début d'édition. En République démocratique du Congo, au moins 129 personnes ont été tuées, dont 24 par balle, dans une tentative d'évasion au contour encore flou, survenue dans la nuit de dimanche à lundi, dans la plus grande prison du pays située à Kinshasa. Le gouvernement a revu son bilan à la hausse après l'annonce hier de 2 morts. Eddy Sango a joint à Kinshasa le président de la nouvelle société civile et du réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption, Jonas Tchombela.
C'est un carnage, une boucherie qui se passait dans ce tunnel-là. Voilà pourquoi, au niveau de la nouvelle société civile congolaise et du réseau de défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption en RDC, nous avons estimé qu'une enquête indépendante devra être ouverte. Cette enquête, on devrait y associer les acteurs ou les défenseurs des droits de l'homme. Compte tenu du fait que les enquêtes sont toujours annoncées dans notre pays et qu'on finisse, on ne sait jamais donner les résultats à la communauté. Cette fois-ci, nous veillons à ce que les résultats de cette enquête soient connus et que les responsables de ce carnage, de cette boucherie ou ces auteurs de l'évasion qui a échoué soient traduits tous devant la justice. Et cette contradiction qui est entre les membres du gouvernement et les magistrats doit être clarifiée par cette commission d'enquête. Et de cette manière que nous pourrions résoudre cette question de la sécurité des détenus et leurs conditions de vie en prison.
Vous parlez d'une contradiction entre les magistrats et les membres du gouvernement. Quelle est cette contradiction?
Mais le magistrat dit que le gouvernement ne les a pas mis dans des conditions du travail. En même temps, le gouvernement dit que nous sommes en train de tenter de désengorger les prisons. Le soir, le magistrat les remplit encore. C'est devenu un jeu de ping-pong dans un gouvernement où des choses comme ça fonctionnent. Ça montre que rien n'est bien préparé. Voilà pourquoi, sur cette question, nous avions proposé qu'il y ait des états généraux de la justice qui ont déjà existé. On doit revoir ces documents ou voir comment les actualiser. Le président de la République lui-même continue de l'affirmer que la justice de notre pays est malade.
Comment en est-on arrivé à, selon le gouvernement, 129 personnes tuées, dont 24 par balle dans cette prison?
Voilà pourquoi nous exigeons une commission d'enquête pour nous éclairer là-dessus. Nous avons senti qu'il y a eu une contradiction sur ce chiffre dans le même gouvernement. Si nous, on était au gouvernement, nous allions démissionner parce qu'on ne peut pas être contredit par notre membre du gouvernement en revoyant le bilan à la hausse, alors que l'autre s'était illustré à la précipitation en déclarant qu'il y a eu 2 morts, de 2 morts à 129, dont 24 par balle. C'est terrible pour le pays. C'est des choses qui doivent ternir l'image du pays. La RDC est candidate au Conseil des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous demandons la transparence dans ce qui est arrivé à la prison centrale de Makala, pour que tout le monde sache qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là.
Le gouvernement reconnaît qu'il n'y a eu que 24 personnes tuées par balle, mais le ministre de l'Intérieur parle de femmes violées, du matériel détruit dans les dossiers des prisonniers. Qu'est-ce que vous en savez?
C'est cela qui nous inquiète. Tout ça, nous nous référons à la commission d'enquête réellement indépendante. Il faut nous dire qu'est-ce qui s'était passé réellement. Les femmes ont été effectivement violées. Le gouvernement même les reconnaît. Et comment 24 sont mortes par balle et qui avait donné l'ordre de tuer, et aussi les autres ont été tués dans quelles conditions, comment dans ces lieux très dangereux on a pu amener des machettes et que les gens arrivent à mourir en masse et de cette manière-là.
C'était Jonas Tchombela, président de la nouvelle société civile et du réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption, la RDDH-LC.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale a rejeté hier soir un projet de révision de la Constitution porté par les nouvelles autorités. Les députés ont dit non par 83 voix contre 80 au projet de suppression des deux institutions consultatives, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Le président dit prendre acte. L'opposition a annoncé le dépôt prochain d'une motion de censure contre le gouvernement. Certains analystes parlent d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Yacouba Ouédraogo a joint à Dakar Pape Alioune Sarr, rédacteur en chef d'Iradio.
C'était prévisible, d'autant plus que le pouvoir actuel n'a pas encore une majorité à l'Assemblée nationale. La majorité parlementaire est toujours détenue par ceux qui étaient au pouvoir et maintenant dans l'opposition. Ce vote-là montre de plus en plus que l'opposition est là, toujours là, avec le groupe parlementaire Benobok-Yakar, malgré la décision actée par Macky Sall de dissoudre cette coalition-là qui a régné pendant 12 ans. Ce qui était prévisible, c'est que forcément la majorité parlementaire, et ce qui est paradoxal dans le champ politique sénégalais, c'est que la majorité parlementaire, avec cette configuration de l'Assemblée nationale, est toujours l'apanage de ceux qui sont dans l'opposition, allait bloquer cela, d'autant plus que dans la réunion du bureau de l'Assemblée nationale, la commission des lois avait bloquer ce projet visant à dissoudre la HCCT et le CES, et la matérialisation de ce blocage a été une réalité lors de la séance extraordinaire qui s'est déroulée hier au Sénégal.
Le président Diomaye Faye, dans un communiqué, dit prendre acte du rejet du projet de révision constitutionnelle. L'opposition va plus loin en annonçant une motion de censure contre le gouvernement. Jusqu'où ira cette bataille?
Jusqu'au bout, d'autant plus que le président du groupe parlementaire Benobok-Yakar a annoncé la motion de censure qui a été déposée ce matin même par Abdoumbo. La sixième motion de censure avec une assemblée qui est différente vu la configuration avec les députés qui sont dans l'opposition, qui sont actuellement majoritaires. Mais est-ce que l'assemblée va survivre après le 12 septembre? Parce que le conseil constitutionnel a donné feu vert à Bassirou Diomaye Faye de dissoudre de l'Assemblée nationale. Donc c'est une course contre la montre. Hein. Les députés de l'Assemblée nationale ont jusqu'au 12 septembre pour voter la motion de censure. Est-ce que le délai qui leur est alloué...
Justement, d'aucuns parlent d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale après la date du 12 septembre. Est-ce que c'est envisageable et dans quelles circonstances cela peut se faire?
Oui, après l'aval du Conseil constitutionnel le 12 septembre qui coïncide avec la deuxième année de cette législature, la dissolution, ce sera tout simplement une force réglementaire à le président de la République de faire tout cela. Et je pense que les députés sont déjà avertis. Ici, les entités politiques se forment. D'autres composantes politiques également sont en action pour former des alliances, parce que dans la tête des acteurs politiques, on va avec des élections législatives extrêmement importantes, d'autant plus que le pouvoir va encore tester son poids sur la balance électorale.
C'était Pape Alioune Sarr, rédacteur en chef d'Iradio. Il était joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Ce soir, nous débutons une mini-série sur les dangers de la route en Afrique. Notre premier focus, le Ghana. Selon un rapport établi par Bloomberg Initiative for Road Safety and Partners, les conducteurs de tricycles motorisés sont à l'origine de la plupart des accidents de la circulation et des décès sur les routes de la ville ghanéenne de Kumasi. Les automobilistes affirment que ces conducteurs sont dangereux en raison de leur mépris flagrant du code de la route. Pourtant, la demande pour leurs services les maintient en activité. Reportage Edmond Aguillet-Koumi, récit Gabi Dorsil.
Il est tôt le matin à Alaba, mais pour Kenneth Akutusi, 33 ans, la journée commence tard, car il commence habituellement à travailler la nuit comme l'un des milliers de conducteurs de tricycles motorisés de la ville de Kumasi. Cela fait près de 5 ans qu'il conduit un tricycle commercial motorisé, connu localement sous le nom de Pragia ou Adeleta. Et c'est sa principale source de revenus. Kenneth aide les commerçants, les fonctionnaires et les étudiants à se rendre à leur destination le long de la route reliant Sofoline à Abouakwa, à Kumasi.
Conduire un véhicule comme celui-ci sur la route est une question délicate. La plupart des conducteurs de véhicules plus grands veulent toujours vous intimider et si vous les laissez faire, c'est vous qui en souffrirez. Cependant, en raison de la petite taille de ce véhicule, nous sommes capables de manœuvrer et d'entrer dans des endroits où ils ne peuvent pas entrer. Les clients nous apprécient donc davantage.
La route Sokoline à Boakwa est connue pour ses accidents et ses décès, en particulier pour les conducteurs de tricycles et de motos.
La route est dangereuse. Je connais des conducteurs qui ont perdu la vie sur cette route et il y a beaucoup de conducteurs sans permis. Mais je connais cette route. Je suis plus expérimenté et je peux donc anticiper les mouvements soudains des grosses voitures. Je garde l'œil ouvert.
En général, les tricycles motorisés sont jugés trop erratiques et dangereux en raison de leur fonctionnement imprévisible. En 2023, l'Assemblée métropolitaine de Kumasi a interdit leur circulation dans le quartier central des affaires de la ville. Al-Hassan Sidi, responsable des relations publiques de l'Union des conducteurs de tricycles, estime que ces conducteurs ne peuvent être tenus pour seuls responsables des accidents.
Une seule institution ne peut pas éradiquer efficacement les mauvais conducteurs. C'est pourquoi nous avons proposé la création d'un groupe de travail conjoint composé de nos propres membres qui connaissent les conducteurs sans permis et de la police. Cette proposition a été rejetée parce que la police connaît son travail et n'a pas besoin de notre aide. Les conducteurs sans permis sont les quelques pommes pourries qui nous donnent une mauvaise réputation.
Avec leur journée de travail de 9 à 5 qui ne tient qu'à un fil, Kenneth dit que lui et ses compagnons de route n'ont pas d'autre choix que de continuer à risquer leur vie sur cette route.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La candidate à l'élection présidentielle américaine Kamala Harris est originaire de l'un des États américains les plus progressistes du pays, la Californie. Son travail en tant que procureur local, puis procureur général de l'État et sénatrice est au cœur de sa campagne présidentielle. Son adversaire Donald Trump affirme que le bilan de Harris en Californie montre qu'elle est trop progressiste pour le reste de l'Amérique. Depuis Los Angeles, Genia Dulao nous explique ce que disent les Californiens. Récit Yacouba Ouedraogo.
Great state of California.
Les démocrates californiens ont voté pour l'une des leurs lors de la convention de leur parti. Gavin Newsom, gouverneur de la Californie.
En Californie, nous sommes fiers de voter pour la prochaine présidente, Kamala Harris, qui compte 482 voix.
Selon Harris, son expérience californienne montre qu'il est possible d'agir sur des préoccupations communes.
En tant que jeune procureur à Oakland, en Californie, j'ai défendu les femmes et les enfants contre les prédateurs qui les maltraitaient. En tant que procureur général de Californie, je me suis attaqué aux grandes banques. J'ai débloqué 20 milliards de dollars pour les familles de la classe moyenne confrontées à des saisies immobilières.
Son adversaire républicain, Donald Trump, affirme que l'expérience de Harris en Californie montre qu'elle va ruiner l'Amérique.
Her radical liberal agenda ruined San Francisco.
Son programme progressiste radical a ruiné San Francisco, ruiné la Californie lorsqu'elle était procureure générale. Elle a écrasé notre classe moyenne, démoli notre frontière, mis le monde en feu. Et maintenant, elle veut être promue au rang de tueuse d'emploi en chef.
Killer in chief.
La Californie possède l'une des législations les plus libérales du pays en matière de droits des travailleurs, d'environnement et de protection des communautés LGBTQ. Selon l'électeur David Miraz, les attaques contre Harris centrées sur la Californie relèvent de la politique politicienne.
Elle n'a pas seulement été procureure, elle n'a pas seulement été procureure générale. Elle a été aussi leader en matière de législation au sein du Sénat de l'État. C'est ce qu'ils essaient de faire, parce qu'ils essaient de la mettre à genoux. Ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est parler de son bilan.
Le bilan de Harris en matière de restriction des droits sur les armes à feu en Californie est la raison pour laquelle Kayla Kelly soutient Trump.
Ce que je sais d'elle, c'est surtout ce qu'elle a fait en matière de contrôle des armes à feu en Californie et ce qu'elle a fait pour imposer toutes ces nouvelles règles et lois. Et évidemment, je suis opposé à tout ce qu'elle a fait passer.
Lily Smallheiser, artiste-interprète, affirme que les antécédents de Harris en matière de protection des libertés individuelles font d'elle la meilleure candidate.
Je pense que les droits reproductifs sont très, très importants et j'aimerais vraiment cela. De plus, je suis gay et je pense que cela fonctionne mieux si elle est présidente.
Mais Katie Wilmont, une autre électrice californienne, estime que Harris a échoué en matière d'immigration en Californie et à Washington.
Elle était censée être chargée de sécuriser notre frontière au tout début de la présidence de Biden et je ne sais pas si elle s'est déjà rendue sur place.
La Californie est un État solidement démocrate. Le parti devrait remporter le vote présidentiel et un siège ouvert au Sénat. L'impact le plus important pourrait résider dans la manière dont les campagnes de Harris et de Trump présentent son expérience californienne aux électeurs des autres États.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg.